Chapitre 9. Des complications. Comme d'habitude, Perrine se réveilla avant l'aube, et comme toujours, Fail était déjà debout et en train de s'affairer. Quand elle l'avait décidé, cette femme pouvait être 10 fois plus discrète et furtive qu'une souris. Parfois, Perrine se disait qu'il aurait pu se lever 1 heure après s'être couché et la trouver quand même debout avant lui. Le rabat étant ouvert et les panneaux latéraux légèrement relevés, un souffle d'air circulait dans la tente via le trou d'aération du plafond, créant une illusion de fraîcheur. D'ailleurs, Perrine frissonna, tandis qu'il cherchait ses vêtements. Après tout, et même si la nature ne semblait pas être au courant, on était en hiver. Le jeune homme se vêtit dans la pénombre, puis il se lava les dents avec du bicarbonate de soude. Tapant des pieds pour finir d'enfiler ses bottes, il sortit de la tente pour découvrir Fail au milieu de ses nouveaux domestiques, dont certains brandissaient une lanterne allumée. La fille d'un seigneur avait besoin de serviteurs. Il aurait dû y penser et prendre les mesures qui s'imposaient. À Kemlin, Fail avait formé des gens de 2 rivières. Mais la priorité du moment, garder cette mission secrète, avait interdit qu'on les emmène. Maître Gil voudrait sûrement retourner chez lui aussi vite que possible. Brehan et Lam Gwyn l'accompagnant sans doute. En revanche, Megdin et Lini resteraient peut-être. Assis en tailleur non loin de là, Aram se leva souplement et attendit en silence un ordre de Perrine. Si ce dernier n'y avait pas mis le holà, le Zingaro aurait dormi devant l'entrée de la tente. Ce matin, il portait une veste rayée rouge et blanc aux couleurs un peu passées. Et même dans le camp, son épée au pommeau en forme de tête de loup restait accrochée dans son dos. Perrine, en revanche, avait laissé sa hache sous la tente et il s'en réjouissait. Et si Talanvor arborait toujours sa lame, Maître Gil avait sauté sur l'occasion pour ne pas s'en munir, Lam Gwyn et Balwer l'imitant. Fail devait guetter quelque chose, car dès qu'elle aperçut son mari, elle désigna la tente et marmonna quelques ordres. Chacune brandissant une lanterne, Megdin et Brehan passèrent en trompe devant Perrine et Aram. Les dents serrées, elle diffusait une forte odeur de détermination. Surprise ô combien agréable, aucune des deux ne se fendit d'une courbette. Lini, elle, fit une esquisse de révérence avant d'emboîter le pas aux 2 autres, en râlant parce qu'elle ne savait pas rester à leur place. De toute évidence, la vieille femme devait penser que la sienne, de place, consistait à tout diriger. Tout bien pesé, c'était une conviction très répandue parmi ces dames. Partout dans le monde, pas seulement à 2 rivières. Talanvor et Lam Gwyn suivirent eux aussi le mouvement, et tous deux saluèrent Perrine avec un sérieux qui confinait à la morosité. Quand le jeune homme s'inclina en retour, soupirant à pierre fendre, ils sursautèrent et le regardèrent avec des yeux ronds. Un rappel à l'ordre de Lini les incita à entrer à toute vitesse sous la tente. Avec l'ombre d'un sourire pour son mari, Fail se dirigea vers les charrettes en parlant avec Basil Gil et Seban Balwer, qui la flanquaient, chacun tenant une lanterne pour lui éclairer le chemin. Bien entendu, une dizaine de crétins et de crétines en cours d'aélisation escortèrent Fail, attentif à rester assez près pour entendre ce qu'elle disait dès qu'elle élevait la voix. La main sur le pommeau de leur épée, ces imbéciles sondaient la pénombre comme s'ils redoutaient une attaque, ou l'espéraient. Perrine tira sur sa courte barbe. Sa femme trouvait toujours une tonne de travail pour s'occuper, et personne ne lui proposait de le faire à sa place, parce qu'il aurait fallu être fou pour oser. Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient seulement à l'horizon, les Kerieniens commençaient déjà à s'affairer autour des charrettes. Voyant approcher Fail, ils s'agitèrent de plus belle, et lorsqu'elle arriva à leur niveau, ils se mirent carrément à courir dans tous les sens, leurs lanternes dansant comme des lucioles dans la pénombre. Habitués aux horaires de la ferme, levés un peu avant le soleil et couchés très peu après lui, les hommes de 2 rivières préparaient déjà le petit déjeuner. Certains en profitaient pour chahuter en riant aux éclats, d'autres s'acquittant de la corvée en faisant grise mine. Quelques-uns tentaient de tirer au flanc, mais leurs camarades, impitoyables, les sortaient sans ménagement de sous leur couverture. Debout, eux aussi, Grady et Néald s'étaient éloignés au milieu des arbres, ombres parmi les ombres avec leurs vestes noires. Sauf erreur de sa part, Perrine ne les avait jamais vus sans ce vêtement, toujours boutonné jusqu'au col et sans un pli. Dans quelque état qu'il se soit trouvé le soir. Les 2 achamans s'entraînaient à l'épée, comme tous les matins. un spectacle plus stimulant que leur exercice du soir. Rester assis en tailleur, les mains sur les genoux, à fixer le vide pendant une éternité. À ces moments-là, il ne faisait jamais rien que tout un chacun pût voir. Pourtant, ignorant ce qu'il mijotait, tous les hommes les contournaient, et les promises elles-mêmes évitaient de passer dans leur champ de vision. Quelque chose clochait, s'avisa soudain Perrine. D'habitude, Faye lui faisait toujours apporter par un des hommes un bol de bouillie de flocons d'avoine bien épaisse. Et ce matin, rien. Sans doute trop occupé, sa femme n'avait pas pensé à lui. Plein d'espoir, il approcha des feux de cuisson avec l'idée de se servir tout seul, pour une fois. Une toute petite fois. Un type mince avec une fossette au menton, flâne barstéré, intercepta Perrine à mi-chemin et lui glissa une coupe en bois sculptée dans les mains. Flan étant originaire de Colline de la Garde, pas de Champ des Mondes, Perrine ne le connaissait pas très bien, mais au pays, ils avaient chassé une ou deux fois ensemble. Et un jour, dans le bois de l'eau, Perrine avait aidé le gaillard à sortir d'une fondrière une vache appartenant à son père.
« Dame Fay, il m'a dit de t'apporter ça, Perrine. Tu ne lui raconteras pas que j'ai failli oublier, pas vrai? J'ai déniché du miel, et je t'en ai mis une sacrée ration. »
Perrine ravala un soupir. Au moins, Flan l'appelait par son prénom. Eh bien, même s'il ne pouvait pas obtenir le droit de faire les choses les plus simples, il était responsable des hommes qui l'avaient accompagné. Sans lui, ces braves types auraient été avec leur famille, se préparant à une journée de dur labeur dans leur ferme. Occupés à traire les vaches, puis à couper du bois, ils n'auraient pas eu à se demander s'ils allaient devoir tuer quelqu'un en ce jour, ou si c'était le dernier qu'ils passeraient dans le monde. Après avoir englouti son petit déjeuner, Perrine conseilla à Aram de prendre son temps avec le sien. Mais le Zingaro eut l'air si misérable qu'il l'autorisa à venir faire le tour du camp avec lui. Un périple que Perrine n'appréciait pas. En le voyant, les hommes posaient leurs coupes, certains allant même jusqu'à se lever. Et bien entendu, chaque fois qu'un de ses copains d'enfance, ou pire encore, un homme plus âgé qui lui donnait jadis des ordres, lui lançait un « Seigneur Perrine », il grinçait des dents. Certes, un gars ne tombait pas dans ce travers, mais ils étaient très peu. De guerre lasse, il renonça à ordonner aux autres de ne pas l'appeler ainsi. S'entendre répondre « Comme tu voudras, Seigneur Perrine » aurait fait hurler de rage n'importe qui. Malgré tout, il prit soin de dire un mot ou deux à chaque homme. À part ça, il garda l'œil ouvert et les narines aussi. Tous ces hommes savaient entretenir un arc et s'assurer du bon état de l'empennage et de la pointe de leurs flèches. Mais un grand nombre auraient pu avoir la semelle de leurs bottes trouée ou leur fond de pantalon sans même s'en apercevoir. Pareillement, ils étaient tout à fait capables de laisser des ampoules s'infecter faute de soins. Enfin, quelques-uns avaient tendance à lever le coude à la première occasion, et une poignée n'était pas assez résistante pour boire comme des trous. La veille, avant d'arriver à Bétal, la colonne avait traversé un village doté de 3 tavernes, pas une de moins. Tout ça était très étrange. Quand maîtresse Louhan, ou sa mère, lui faisait remarquer qu'il avait besoin de nouvelles bottes ou de repriser son pantalon, Perrine s'était toujours sentie vaguement humiliée. Et si c'était venu de quiconque d'autre, il n'aurait pas mieux réagi. Mais là, du vieux John Dean Baran au cadet du groupe, tous les gars de Deux-Rivières lui répondaient « C'est vrai, Seigneur Perrine, et je vais m'en occuper tout de suite », ou un truc dans le genre. Alors qu'il avançait, Perrine vit plusieurs hommes se sourire après l'avoir regardé, et leur odeur embaumait la satisfaction. Ce qui arriva avec Jory Congar fut encore plus étonnant. Sec comme un coup de trique, Jory mangeait pourtant pour 4. Et s'il n'était pas maladroit avec un arc, il buvait au moins pour 8 et avait une forte tendance au chapardage. Quand Perrine sortit d'une sacoche de sel de Jory une cruche d'alcool de poire, le fichu gaillard écarquilla les yeux et écarta les mains, comme pour dire qu'il ignorait d'où venait cet objet. Mais quand le jeune homme s'éloigna en vidant l'agneau sur le sol, Jory lui lança, rigolard.
« On ne la fait pas au Seigneur Perrine, pas vrai ?»
Rigolard, mais fier comme un coq d'avoir un tel chef. Par moments, Perrine se demandait s'il n'était pas la dernière personne saine d'esprit dans ce camp. Une autre chose l'intrigua. À l'évidence, ces hommes s'intéressaient beaucoup aux choses qu'ils ne disaient pas. Régulièrement, des types, sur son passage, jetaient un coup d'œil aux 2 étendards qui battaient de temps en temps au vent sur leurs poteaux. Puis ces hommes regardaient de nouveau leur chef, attendant l'ordre qu'il répétait chaque fois qu'on exhibait l'aigle rouge et la tête de loup. En tout cas depuis l'entrée au Gealdan. Et même avant d'ailleurs. Mais Perrine n'avait rien dit la veille. Et il resta tout aussi muet sur le sujet en ce nouveau jour.
Du coup, il eut très vite dans son dos des petits groupes d'hommes ébahis par sa retenue et qui murmuraient entre eux. Il s'efforça de ne pas entendre ces conversations. Que diraient ces soldats s'ils se trompaient? Si les Capes Blanches ou le roi Aileron décidaient de se désintéresser du prophète et des Séanchaniens le temps de mater une rébellion? Ces hommes étaient sous sa responsabilité, et beaucoup trop d'entre eux étaient morts par sa faute. Quand Perrine fut de retour à la tente, le soleil pointait à l'horizon. Sous la supervision de Lini, Talanvor et Lamgwin sortaient des coffres de la tente. Sur un grand carré d'herbe desséchée, Megdin et Brehan étaient en train de trier le contenu d'autres coffres apportés par les deux hommes. Essentiellement, il y avait là des couvertures, des draps et plusieurs jeux de tentures pour le somptueux lit à baldaquin qu'il avait égaré dans la nature. Fail devait être sous la tente, puisque sa bande de décérébrés faisait le pied de grue devant, sans rien porter ni trier. Utiles comme des rats dans une grange, ces idiots. Perrine envisagea d'aller voir comment se portaient marcheurs et trotteurs, ses chevaux. Mais il renonça dès qu'il vit que trois maréchaux ferrants l'avaient repéré. Dans leur tablier de cuir, ces colosses se ressemblaient comme des frères. Même si Phaelton n'avait plus autour du crâne qu'une couronne de cheveux blancs, Aemin grisonnant déjà, alors que Gérasil était encore assez loin de l'âge mûr. Et à coup sûr, s'il posait une main sur un des chevaux, ou pire encore, osait relever une de leurs pattes, ils en feraient une attaque. La seule fois qu'il avait tenté de changer un fer à marcheur, les six maréchaux ferrants s'étaient précipités, s'emparant des outils avant qu'il ait pu esquisser un geste, et renversant presque le pauvre équidé dans leur hâte de bien faire.
« Ils ont peur que tu n'aies pas confiance en eux, »
dit Aram. Sous le regard surpris de Perrine, il haussa les épaules.
« J'ai parlé à certains d'entre eux. Si un seigneur s'occupe lui-même de son cheval, disent-ils, c'est parce qu'il se méfie de ses maréchaux ferrants. Tu pourrais les renvoyer, les laissant dans l'incapacité de rentrer chez eux. »
À son ton, Aram ne croyait pas que c'était possible. Mais il coula un regard en biais à Perrine et haussa de nouveau les épaules.
« Je crois qu'ils sont aussi gênés. Quand tu n'agis pas comme ils croient qu'un seigneur devrait le faire, ils ont l'impression que la honte rejaillit sur eux. »
Par la lumière. Fail tenait ce genre de discours, au sujet de la gêne en tout cas. Mais il avait pris ça pour du babil de fille de seigneur. Après avoir grandi entouré de domestiques, comment aurait-elle compris le raisonnement d'un homme contraint de travailler pour survivre? Près des chevaux, cinq maréchaux ferrants l'attendaient désormais de pied ferme. Des types gênés parce qu'il aurait voulu s'occuper de ses montures. Et peut-être aussi parce qu'il ne leur demandait pas de tricoter et de ratisser le gravier quand il n'avait rien à faire.
« Et tu crois que je devrais me comporter comme un crétin empoudré et vêtu de soie ?»
Aram tressaillit et baissa les yeux sur la pointe de ses bottes.
« Au nom de la lumière !»
Apercevant Bazelgil en train de s'éloigner des charrettes, Perrine avança à sa rencontre. La veille, il doutait d'avoir réussi à mettre à l'aise l'aubergiste. Parlant tout seul, le gros homme se tamponnait déjà le front. Malgré l'heure précoce, la chaleur passait à l'attaque. N'ayant pas vu Perrine, Gil sursauta quand celui-ci déboula près de lui. Rangeant son mouchoir, il s'inclina avec pas mal de grâce. Comme pour un jour de fête, il était tiré à quatre épingles.
« Seigneur Perrine, votre femme m'a dit d'aller à Bétal avec une charrette, pour vous acheter du tabac de Deux-Rivières, si j'en trouve. Mais je doute que ce soit possible. Le plan de Deux-Rivières a toujours été rare, et le commerce n'est plus ce qu'il était. »«
Elle t'envoie acheter du tabac ?»
fit Perrine, le front plissé. Leur mission n'avait désormais plus rien de secret, mais quand même.
« J'en ai acheté 3 tonneaux dans un village avant-hier. Assez pour tout le monde. »
« Pas d'une variété de Deux-Rivières. Et selon Dame Fail, c'est celle que vous préférez. Le tabac du Géaldan suffira pour vos hommes, mais... Je dois être votre Chambayan, a-t-elle dit, et vous procurer à tous les deux ce dont vous avez besoin. Rien de bien différent de mon travail à l'auberge, en un sens. »
Cette comparaison sembla dérider Maître Gil.
« J'ai une très longue liste, mais j'ignore si je trouverai tout. Du bon vin, des herbes, des fruits, des bougies, de l'huile pour les lampes, de la toile goudronnée, de la cire, du parchemin, de l'encre, des aiguilles, des épingles et 1000 autres choses. Talanvor, Lamgwin et moi, nous allons partir avec d'autres serviteurs de notre maîtresse. »
Les décérébrés, comprit Perrine. Portant un nouveau coffre, Talanvor et Lamgwin passèrent au milieu des jeunes crétins, qui ne proposèrent pas de les aider.
« Vous garderez un œil sur ces freluquets, Maître Gil, »
dit Perrine.
« Si l'un d'eux pose un problème, ou semble devoir le faire, Lamgwin devra lui fendre le crâne en deux. »
Et s'il s'agissait d'une des filles,
elles étaient tout aussi catastrophiques que les garçons, voire plus. Décidément, les fidèles de Fail commençaient à lui peser chroniquement sur l'estomac. Pourquoi ne se satisfaisait-elle pas de gens comme Gil ou McDean ?
Vous n'avez pas mentionné Balwer. A-t-il décidé de continuer seul son chemin ?
À cet instant, la brise charria l'odeur de Balwer jusqu'aux narines de Perrine. Une odeur vive et alerte, peu en rapport avec l'apparence desséchée du bonhomme. Même pour quelqu'un aussi rachitique, Balwer faisait remarquablement peu de bruit sur le tapis de feuilles mortes. Quand il esquissa une révérence, sa tête inclinée accentua sa ressemblance avec un oiseau.
« Je reste, Seigneur, »
dit-il, circonspect. Ou était-ce simplement son ton naturel ?«
Pour devenir le secrétaire de votre gracieuse épouse. Et le vôtre, si ça vous chante. »
Il avança d'un pas, presque un petit bond.
« Je suis très expérimenté, Seigneur. Ma mémoire est sans faille. J'écris d'une main sûre, et je suis muet comme une tombe. Savoir garder un secret est la qualité première d'un secrétaire. Maître Gil, n'as-tu donc rien d'urgent à faire pour notre nouvelle maîtresse ?»
Gil plissa le front, ouvrit la bouche, et la referma. Puis il pivota sur lui-même et se dirigea vers la tente. La tête inclinée, Balwer le regarda s'éloigner.
« Je propose aussi d'autres services, Seigneur. Des informations, des conversations de certains soldats. J'ai cru comprendre, Seigneur, que vous avez des difficultés avec les Fils de la Lumière. Un secrétaire glane beaucoup de connaissances. J'en sais très long sur les Fils. »«
Avec un peu de chance, je les éviterai, »
dit Perrine.
« Mais si tu savais où est le prophète, en revanche, idem pour les Seanchaniens. »
Bien entendu, c'était une boutade. Mais Balwer se révéla très surprenant.
« Je ne peux pas le jurer, mais je pense que les Seanchaniens sont toujours dans les environs d'Amador. Distinguer les faits des rumeurs est tout un art, mais je garde les oreilles ouvertes. Ces envahisseurs semblent se déplacer à une vitesse surprenante, et ils sont accompagnés de nombreux soldats du Tarabone. Des dires de Maître Gil, j'ai déduit que vous les connaissiez bien, Seigneur, mais à Amador, j'ai eu le loisir de les observer, et tout ce que je sais est à votre disposition. Quant au prophète, malgré d'innombrables rumeurs sans fondement, je crois pouvoir affirmer qu'il était récemment à Abila, une cité assez importante, à une quarantaine de lieues d'ici, au sud. »
Balwer eut un fin sourire satisfait.
« Comment peux-tu en être sûr ?»
demanda Perrine.
« Comme je l'ai dit, Seigneur, je garde mes oreilles ouvertes. On raconte que le prophète a fait fermer nombre d'auberges et de tavernes, voire raser celles qu'il tenait pour des lieux de perdition. J'ai entendu certaines raisons sociales, et je sais qu'il y a des établissements ainsi nommés à Abila. Selon moi, il y a peu de chances qu'une autre ville en ait quatre ou cinq du même nom. »
Balwer sourit de nouveau. Comme son odeur l'indiquait, il était fort content de lui. Perrine se gratta pensivement la barbe. Balwer semblait venir de se rappeler où se trouvaient certains établissements détruits par Massema. En quoi ça prouvait que le prophète était encore sur les lieux de ses exactions ? En outre, le secrétaire semblait du genre à se gonfler d'importance.
« Merci, maître Balwer. Je garde ça à l'esprit. Si tu entends d'autres choses, viens m'en parler. »
Perrine se détourna, mais l'homme le rattrapa par la manche. Un très bref contact, comme s'il s'était brûlé, et qu'il sembla vouloir effacer en se frottant les mains.
« Seigneur, j'hésite à insister, mais... Eh bien, ne prenez pas les capes blanches à la légère. Les éviter est une sage décision, mais ce ne sera peut-être pas possible. Ils sont plus près que les Seanchaniens. Et avant la chute d'Amador et Amon Valda, leur nouveau seigneur général, a conduit le plus gros de ses forces dans le nord de la Maticia. Lui aussi traque le prophète. Valda est un homme dangereux, et Radha Masunawa, le grand inquisiteur, le rendrait presque sympathique. Mais aucun de ces deux hommes, j'en ai peur, n'éprouve beaucoup d'affection pour votre seigneur dragon. »
Il s'inclina de nouveau, hésita, puis continua.
« Si je puis me permettre, seigneur, déployer ainsi l'étendard de Manéthérène est une grande idée. Si vous vous en donnez la peine, vous serez un adversaire de poids pour Valda et Asunawa. »
En regardant Balwer s'éloigner, Perrine songea qu'il connaissait à présent une partie de son histoire. À l'évidence, il fuyait les capes blanches. Pour avoir des ennuis avec les fils, il suffisait parfois de se trouver sur le même trottoir qu'eux, ou d'en avoir regardé un de travers. Mais Balwer semblait avoir une sacrée dent contre eux, À part ça, c'était un type à l'esprit vif et à l'œil acéré. Sinon, il n'aurait pas compris si vite pour l'Aigle Rouge. Et il avait su tirer des trésors d'informations de Maître Gill. Pour l'heure, l'aubergiste était agenouillé près de McDean, lui parlant à l'oreille malgré les efforts de Ligny pour le faire taire. La jeune femme suivait du regard Balouaire, qui se dirigeait vers les charrettes. Mais il lui arrivait de tourner la tête vers Perrine. Les autres se livraient aussi à ce petit jeu. Visiblement, tous s'inquiétaient de ce que le petit homme avait bien pu dire à Perrine. Mais que redoutait-il? Qu'aurait bien pu révéler Balouaire? Des ragots, sûrement. Des histoires de vieilles rancunes ou de méfaits passés, réels ou imaginaires. Des gens serrés comme des poules dans un poulailler finissaient eux aussi par se flanquer des coups de bec. Si c'était le problème, Perrine pourrait imposer une trêve avant que le sang coule. Talanvor tapotait encore le pommeau de son épée. Que comptait faire de lui Fail par la lumière?
Aram, je veux que tu ailles parler à Talanvor et à ses amis. Répète-leur ce que Balouaire m'a dit. Glisse ça dans la conversation, mais répète absolument tout.
En principe, ça apaiserait les craintes du petit groupe. Selon Fail, les serviteurs avaient besoin de se sentir comme chez eux.
Si tu peux, sympathise avec eux. Mais si tu dois jeter ton dévolu sur une des femmes, choisis Ligny. Les deux autres sont prises.
Le Zingaro était un sacré coureur de jupons. Pourtant, il parut surpris et vexé.
À tes ordres, Seigneur Perrine. Je te rejoindrai très vite.
Je serai avec les aguels.
Vraiment? Eh bien, si je dois sympathiser, ça me prendra peut-être un peu de temps. Ils n'ont pas l'air très ouverts, ces gens.
Ces mots-là, dans la bouche d'un homme qui regardait d'un air soupçonneux toute personne approchant de Perrine, à part Fail, et qui n'aurait pour rien au monde souri à quiconque ne portait pas de jupe. Quoi qu'il en soit, Aram alla rejoindre le petit groupe, s'accroupit, et tenta d'engager la conversation. Même de loin, la froideur de ses interlocuteurs sautait aux yeux. Continuant à s'affairer, ils consentirent à lâcher de temps en temps un mot ou deux aux Zingaro, mais jamais sans s'être d'abord consultés du regard. Nerveux comme des cailles vertes en été, quand les renardes apprennent l'art de la chasse à leurs petits. Mais au moins, Gil et les autres ne restaient pas totalement muets. Perrine se demanda vaguement quel contentieux Aram pouvait avoir avec les aïels. À première vue, il n'aurait pas dû avoir le temps de s'en faire des ennemis. Mais il ne s'attarda pas longtemps sur le sujet. Tout différent sérieux avec un aïel se soldait en général par un décès, et pas par celui du guerrier du désert. Pour être franc, Perrine n'était pas pressé d'aller voir les matriarches. Il se dirigea bien vers la colline, mais ses pas, bizarrement, le conduisirent vers le camp des gardes ailés. Jusque-là, il en était resté aussi loin que possible, et pas seulement à cause de Berelaine. Parfois, avoir un odorat hors du commun n'était pas un avantage. Par bonheur, une brise chassait la plus grande partie de la puanteur, même s'il ne pouvait pas grand-chose contre la chaleur. Dans leur armure rouge, les sentinelles à cheval suaient à grosses gouttes. Ça se voyait sur leur visage. En apercevant Perrine, ces hommes se redressèrent sur leurs selles, et ça n'était pas dépourvu de signification. Alors que les gars de Deux-Rivières chevauchaient en toutes circonstances comme s'ils se rendaient au champ, les gardes ailés faisaient le plus souvent penser à des statues équestres. Cela dit, ils savaient se battre. La lumière veuille que ce ne soit pas nécessaire. En finissant de boutonner sa veste, Avienne Nourel courut à la rencontre de Perrine. Une dizaine d'officiers le suivaient, tous portant leurs vestes, et certains terminant de fermer les sangles de leurs plastrons rouges. Deux ou trois avaient calé sous un bras leur casque orné de fines plumes rouges. Parmi ces hommes, presque tous étaient plus âgés que Nourel. Des vétérans grisonnants au visage couvert de cicatrices. Mais Avienne Nourel, auréolé de sa contribution au sauvetage de Rand, avait été nommé second de Galen, son premier lieutenant, disait-on au sein des gardes ailés.
« Seigneur Perrine,
dit-il,
la première dame n'est pas encore revenue. »
Grand et mince, Nourel ne semblait plus aussi juvénile qu'avant les puits de Doumaille. Ça se lisait dans ses yeux, beaucoup plus dur depuis qu'en une seule bataille, il avait vu plus de sang que bien des vétérans dans toute leur carrière. Mais si son visage avait changé, il y avait toujours dans son odeur ce désir naïf de plaire si typique de la jeunesse. Pour lui, Perrine Aybara était un homme qui aurait pu voler ou marcher sur les eaux, s'il en avait eu envie.
« Les patrouilles du matin, celles qui sont de retour en tout cas, n'ont rien signalé. Sinon je serais venu vous prévenir. »«
Bien sûr, je viens seulement jeter un petit coup d'œil. »
Perrine avait l'intention de marcher un peu dans le camp, jusqu'à ce qu'il trouve le courage d'affronter les matriarches, mais Nourel et les autres officiers ne le lâchèrent pas, anxieux de le voir découvrir quelques défauts dans la cuirasse de la garde ailée. Chaque fois que le petit groupe aperçut des hommes torse nus en train de jouer aux dés, ou des tirs au flanc qui ronflaient encore alors que le soleil était levé, le jeune officier fit la grimace. Il n'aurait pas dû, car aux yeux de Perrine, le camp semblait avoir été dressé avec un fil à plomb et un niveau à bulles. Utilisant sa selle comme oreiller, chaque homme avait déroulé sa couverture à moins de 2 pas de l'endroit où était attaché son cheval. Tous les 20 pas, très exactement, un feu de cuisson crépitait. Un faisceau de lance passait très précisément à équidistance le séparant du suivant. Au centre du camp, 5 tentes pointues se dressaient avec une parfaite rectitude géométrique. Ou plutôt, 4 tentes et un pavillon rayé de jaune et de bleu trônant au milieu. Bref, une configuration qui n'avait rien à voir avec l'improvisation permanente qui caractérisait le camp des gardes de rivière. Perrine marcha à grands pas, se concentrant pour ne pas avoir l'air trop idiot. Une intention louable, même s'il n'aurait pas juré qu'il y parvenait. Il brûlait d'envie de s'arrêter pour étudier de près un cheval ou deux, voire de soulever une jambe sans que personne en fasse une attaque d'apoplexie. Mais, se souvenant des propos d'Aram, il garda ses mains loin des équidés. Nourel ne fut pas le seul à s'étonner du rythme accéléré de cette visite. Alors qu'ils ordonnaient à des hommes de se lever sur le passage du seigneur, des porte-étendards n'en revinrent pas de voir passer devant eux le dit seigneur, à la vitesse du vent, et en les gratifiant à peine d'un signe de tête. Des murmures montèrent un peu partout dans son sillage, et il capta quelques commentaires sur les officiers en général, et les seigneurs en particulier, que Nourel et ses collègues n'entendirent heureusement pas. Quand il eut fait le tour du camp, Perrine se retrouva au pied de la pente menant à celui des matriarches. Là-haut, on apercevait seulement quelques promises et une poignée de gaïchines.
« Seigneur Perrine, »
dit Nourel, hésitant.
« Les Aes Sedai et... »
Il se porta au niveau de Perrine et baissa la voix.
« Je sais qu'elles ont juré fidélité au Seigneur Dragon, mais j'ai vu des choses étranges, Seigneur. Elles font des corvées, des Aes Sedai. Ce matin, Masuri et Séonide ont joué aux portes d'eau. Et hier, j'ai cru entendre quelqu'un pleurer là-haut. Bien entendu, ça ne pouvait pas être une des sœurs. »
Il eut un petit rire, histoire de souligner le ridicule d'une telle hypothèse.
« Seigneur, tu t'assureras que tout va bien pour les sœurs ?»
À la tête de 200 lanciers, cet homme avait chargé quelques 40 000 chaïdo, sans broncher. En revanche, évoquer ce sujet le mettait dans tous ses états. Mais au fond, c'était logique, puisqu'il avait chargé ses chaïdo pour obéir à une Aes Sedai.
« Je ferai mon possible, »
marmonna Perrine. La situation était peut-être pire qu'il le pensait. Eh bien, il allait devoir inverser la tendance, si c'était dans ses cordes. À tout prendre, il aurait préféré affronter de nouveau les chaïdo. Nourel hocha la tête, satisfait comme si Perrine lui avait promis de renverser des montagnes.
« C'est parfait dans ce cas, »
dit-il, soulagé. Coulant des regards en biais à Perrine, il parut chercher le courage d'ajouter quelque chose, sur un sujet cependant moins brûlant que les Aes Sedai.
« Tu gardes l'aigle rouge, d'après ce qu'on dit. »
Perrine faillit sursauter. Les nouvelles circulaient vite dans ce camp.
« Ça m'a paru la meilleure solution. »
Berylaine connaîtrait toute la vérité. Mais si trop de gens étaient informés, tout le Géaldan serait bientôt au courant.
« Cette région faisait jadis partie de Manéthéren, »
ajouta Perrine, comme si Nourel avait pu l'ignorer. La vérité. Voilà jusqu'où il était tombé. Capable de la travestir, à l'instar d'une Aes Sedai, et en face de ses alliés.
« Ce n'est pas la première fois qu'on brandit cet étendard au Géaldan, j'en suis sûr. Mais les autres types n'avaient pas le soutien du dragon réincarné. »
Si cette remarque ne lui rapportait pas la récolte escomptée, mieux valait qu'il abandonne l'agriculture. Soudain, Perrine s'avisa que presque tous les gardes-ailés le regardaient s'attarder avec leurs officiers, après avoir traversé le camp au pas de charge. Même le vieux soldat chauve que Galen appelait son voleur de chiens était venu voir le spectacle. Jusqu'aux servantes de Berylaine, deux bonnes femmes rondelettes vêtues aux couleurs du pavillon de leur maîtresse, qui observaient tout ça avec de grands yeux ronds. D'un ton assez puissant pour porter dans presque tout le camp, Perrine lança.
« Si nous devons vivre une autre bataille comme les puits de Doumaï, les gardes-ailés feront la fierté de Mayenne. »
Les premières phrases qui sont venues à l'esprit de Perrine. Mais tout en les prononçant, il fit la grimace. Comme c'était prévisible, cette tirade fut saluée par des cris enthousiastes.
« Perrine, yeux jaunes !
Mayenne pour yeux jaunes !
Yeux jaunes et Manéthéren !»
Des hommes esquissèrent un pas de danse, et d'autres prirent une lance dans un faisceau, la brandissant afin que ses fanions rouges flottent au vent. les bras croisés, les porte-étendards grisonnants, regardèrent d'un œil approbateur ces manifestations de loyauté. Des officiers blanchis sous le harnais sourirent comme des écoliers qu'on viendrait de complimenter sur leur devoir. Perrine en déduisit qu'il était bel et bien le dernier type saint d'esprit dans ce camp. La lumière veuille qu'il ne participe plus jamais à une autre bataille. Se demandant si tout ça n'allait pas lui attirer des ennuis avec Berry Lane, il salua Nourel et les autres officiers et entreprit de gravir le versant de la colline semé d'arbustes rachitiques. Dans son dos, des vivats retentissaient toujours. Même quand elle aurait appris la vérité sur l'incident, la première dame risquait de ne pas apprécier que ses soldats aient acclamé ainsi Perrine. Cela posé, si elle se vexait, ça n'aurait pas que des inconvénients. Surtout si ça l'incitait à cesser de poursuivre le jeune homme, de ses assiduités. Arrivée non loin du sommet, Perrine s'immobilisa, le temps de constater que les acclamations se calmaient. Ici, personne ne l'applaudirait. Toutes les parois de leur tente baissées, les matriarches se retranchaient sans doute à l'intérieur. Assis sur les talons à l'ombre d'un arbre, quelques promises observaient Perrine avec une évidente curiosité. Agitant vivement les mains, elles parlaient dans leur langage par gestes, le code secret de leur ordre. Puis Souline se leva, s'assura de la présence à sa ceinture de son grand couteau et se dirigea vers Perrine. Grande et mince, cette femme arborait une balafre sur une de ses joues tannées par le soleil. Regardant derrière Perrine, elle constata qu'il était seul et parut soulagé. Mais rien n'était moins sûr, car avec les aïels, on ne savait jamais vraiment ce qu'il en était.
« Tu agis bien, Perrine Aibara, »
dit-elle.
« Les matriarches n'ont pas aimé que tu les forces à venir te voir. Seuls les fous déplaisent aux matriarches. Et tu m'as toujours paru saint d'esprit. »
Perrine se gratouilla la barbe. Il s'était tenu à distance des matriarches et des Aes Sedai, mais sans jamais avoir l'intention de les convoquer. En présence de ces femmes, il était mal à l'aise, pour rester poli.
« J'ai besoin de voir Adara, »
dit-il.
« Au sujet des Aes Sedai. »«
Je me suis peut-être mépris sur le sens de ta visite, »
lâcha sèchement Souline.
« Dis-moi un peu, Perrine Aibara. Teril Winter et Furen Alara sont proches de Séonide Tregan. Comme des premiers frères d'une première sœur, rien de plus. Car elle n'a aucun goût pour les hommes. Et ils ont pourtant proposé de subir sa punition à sa place. Comment ont-ils pu l'humilier ainsi ?»
Perrine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Venant du versant opposé, deux gaïchaïn apparurent, chacun tenant par la bride deux mules. Ils passèrent à côté de Perrine, se dirigeant vers le cours d'eau. Des chaïdos, apparemment. Marchant la tête baissée, ils devaient à peine voir à deux pas devant eux. Bien sûr, au cours de corvées de ce genre, effectuées sans surveillance, ils auraient eu 10 fois l'occasion de filer. Un peuple étrange, ces aïels.
« Je vois que tu es troublé aussi, »
dit Souline.
« J'espérais que tu m'expliquerais. Je vais prévenir Edara que tu veux la voir. »
Elle s'éloigna en marmonnant.
« Les gens des terres mouillées sont très bizarres, Perrine Aibara. »
Perrine regarda la promise, sourcils froncés, jusqu'à ce qu'elle soit entrée sous une tente. Puis il tourna la tête vers les deux gaïchaïn. « Bizarre, les gens des terres mouillées ?» Par la lumière. Ainsi, ce qu'avait entendu dire Nourel était vrai. Du coup, il était plus que temps pour Perrine de se mêler de ce qui se passait entre les matriarches et les Aes Sedai. Il aurait dû le faire avant, en espérant que ça ne revienne pas à plonger la main dans un nid de frelons. Souline mit assez longtemps à revenir, et quand ce fut fait, ça n'eut rien pour apaiser les craintes de Perrine. Tenant le rabat de la tente ouvert, elle le regarda entrer, tout en tapotant le manche de son couteau.
« Tu as intérêt à ne pas être venu sans armes pour cette danse, Perrine Aibara. »
Les 6 matriarches attendaient sous la tente. Assises en tailleur sur des coussins à pompons, leurs châles noués autour de la taille, elles représentaient de fait une opposition redoutable, alors qu'il espérait un tête-à-tête avec Edara. Aucune de ces femmes ne semblait avoir plus de 5 ou 6 ans de plus que lui, et certaines paraissaient de son âge. Pourtant, en face d'elles, il avait toujours l'impression de comparaître devant les doyennes du cercle des femmes, celles qui avaient passé des années à apprendre comment percer au jour tous les secrets des gens. Distinguer l'odeur de chacune des femmes était impossible, mais il n'en avait pas besoin. 6 paires d'yeux étaient rivés sur lui, du regard bleu de Janina à celui presque rouge de Marline, sans parler de celui de Nevarine, d'un vert brillant. Et chacune aurait pu être un poignard, ou une broche, histoire de le mettre à rôtir. Edara fit signe à Perrine de s'asseoir, une invitation qu'il accepta avec gratitude, même s'il se plaçait ainsi en face d'un demi-cercle de juges menaçants. Les matriarches avaient-elles conçu leur tente pour obliger les hommes à baisser la tête, s'ils préféraient rester debout ? Même s'il faisait plus frais qu'à l'extérieur,
Perrine sentit qu'il transpirait toujours autant. Collectivement, ses aïeuls diffusaient l'odeur d'une meute de louves, observant une chèvre attachée à un piquet. Un gaïchaïn au visage carré, bien plus grand que Perrine, s'agenouilla pour lui proposer sur un plateau d'argent un gobelet d'or de ponche au vin rouge. Les matriarches, déjà servis, tenaient toute une variété de coupes et de gobelets d'argent dépareillés. Se demandant pourquoi il avait droit à de l'or, en supposant qu'il y ait une raison, comment savoir avec les aïeuls, Perrine prit le gobelet, d'où montait une odeur de prune. Lorsqu'Edara claqua des doigts, le gaïchan recula sans se redresser, puis sortit de la tente. La balafre que ce type arborait sur une joue, encore fraîche, remontait sûrement au puits de Doumaï.
« Maintenant que tu es là, »
dit Edara, dès que le rabat fut retombé derrière l'homme.
« Nous allons une nouvelle fois t'expliquer pourquoi tu dois tuer Massema Dagar. Nous ne devrions pas avoir besoin de recommencer. »
soupira Delora. Ses cheveux et ses yeux faisaient penser à ceux de Megdin, mais personne n'aurait pensé à la qualifier de jolie. Elle était froide comme un glaçon.
« Massema Dagar est un danger pour le Karakarn. Il doit mourir. Celles qui marchent dans les rêves nous l'ont dit, Perrine Ibarra. »
ajouta Karel. Très jolie, cette matriarche-là, malgré ses cheveux de feu et ses yeux perçants, était d'un caractère très égal, pour une aïeule et une matriarche. Et il ne fallait surtout pas s'y tromper.
Elles ont interprété le songe. Cet homme doit mourir.
Pour gagner du temps, Perrine but une gorgée de ponche, miraculeusement frais par cette chaleur. Rand n'avait pas fait allusion à un avertissement de celle qui marche dans les rêves. Lors de la première rencontre avec ses femmes, Perrine avait avancé cet argument. Une seule fois, et il ne recommencerait plus. Pensant qu'il mettait en doute leurs propos, les six femmes, oui, même Karel, l'avaient foudroyé du regard. Non que Perrine eût pensé qu'elle mentait. Pas exactement, en tout cas. Et il ne les avait jamais surprises en flagrant délit de mensonge. Mais ce qu'elles attendaient de l'avenir et ce que Rand espérait, et lui aussi par la même occasion, n'était peut-être pas du tout la même chose. Mais était-ce Rand qui gardait des secrets ?
« Si vous pouviez me donner une idée de ce danger, »
dit-il prudemment.
« Massema est fou, c'est vrai. Mais il soutient Rand. De quoi aurais-je l'air si je commence à tuer nos alliés ? C'est assez peu susceptible de rallier des gens à notre cause. »
Insensible à l'ironie, les matriarches ne bronchèrent pas.
« Cet homme doit mourir, »
dit Edara.
« Trois femmes qui marchent dans les rêves l'ont dit. Et six matriarches te le répètent. Ça devrait suffire. »
Le même discours que d'habitude. Au fond, ces aïeuls n'en savaient peut-être pas plus long que ça. Bien. Il était temps de passer à l'objet de sa visite.
« Je suis venu parler de Séonide et Massouri, »
annonça Perrine. Les six femmes se pétrifièrent. Sous leur regard, un rocher se serait senti tout petit. Posant son gobelet, Perrine refusa de baisser les yeux.
« Je suis censé montrer aux gens les Aes Sedai fidèles à Rand. »
En réalité, il devait montrer ses sœurs à Massema. Et ça ne semblait pas le moment idéal pour le dire.
« Elles ne seront sûrement pas coopératives si vous continuez à les maltraiter. Enfin, ce sont des Aes Sedai. Au lieu de leur faire porter de l'eau, pourquoi ne profitez-vous pas de leur savoir ? Elles doivent connaître bien des choses que vous ignorez. »
Ça, c'était sans doute la phrase de trop. Mais les aïeuls ne parurent pas s'en offenser, pour autant qu'on puisse le dire.
« Elles ont des secrets que nous ne détenons pas, »
dit Delora.
« Et nous en avons qui les dépassent. »
Une pique propulsée avec précision, comme une lance entre deux omoplates.
« Nous apprenons ce qui peut être appris, Perrine Ibarra, »
fit Marline, en passant les doigts dans ses cheveux presque noirs. Très peu d'aïeuls arboraient cette couleur de cheveux, et elle adorait la mettre en valeur d'une façon ou d'une autre.
« Et nous enseignons ce qui doit être enseigné. Quoi qu'il en soit, »
intervint Janina.
« Ça ne te regarde pas. Ce qui se passe entre les matriarches et leurs apprentis ne concerne pas les hommes. »
Elle secoua la tête, comme pour en chasser une hérésie pareille.
« Tu peux cesser d'écouter dehors et entrer, Séonide Tregan, »
dit soudain Edara. Perrine en tressaillit de surprise. Bien entendu, aucune de ses interlocutrices ne broncha. Après un court silence glacial, le rabat s'écarta et Séonide entra, s'agenouillant très vite sur le sol couvert de tapis. Chez elle, la fameuse sérénité des Aes Sedai avait volé en éclats. Les lèvres pincées, les yeux plissés, rouges comme une pivoine, elle sentait la colère, la frustration et un mélange indéfinissable d'émotions qui tourbillonnaient sans cesse, impossible à séparer les unes des autres.
Puis-je parler à cet homme ?
Demanda-t-elle d'un ton sec.
Si tu prends garde à ce que tu dis,
répondit Edara. Elle sirota un peu de punch sans quitter la sœur du regard. Un professeur qui observe un élève ? Un faucon guettant une souris ? Perrine n'aurait su le dire. Cependant, dans les deux cas, Edara était parfaitement sûre de la place qu'elle occupait. Idem pour Séonide. Mais face à lui, la sœur refusait d'adopter une attitude soumise. Toujours agenouillée, elle se tourna vers Perrine, redressant le dos, et riva sur lui des yeux qui lançaient des éclairs.
« Quoi que tu saches !»
rugit-elle.
« Ou quoi que tu penses savoir, tu dois l'oublier !»
Il ne lui restait plus une once de sérénité, c'était visible.
« Ce qui se passe entre les matriarches et les Aes Sedai ne te concerne pas. Reste à l'écart, détourne le regard et ne dis rien !»
Ébahi, Perrine se passa une main dans les cheveux.
« Vous êtes bouleversé parce que je sais qu'on vous a donné le fouet ?»
dit-il, incrédule. Pour dire vrai, il aurait été dans tous ses états, lui aussi. Mais pas pour les mêmes raisons.
« Ignorez-vous que ces femmes seraient capables de vous égorger sans y penser, puis de vous abandonner sur le bord de la route ? Eh bien, je me suis juré de ne pas laisser arriver une telle chose. Je n'aime pas les Aes Sedai, mais j'ai promis de les protéger des matriarches, des Achamanes et même de Rand. Alors, ne montez surtout pas sur vos grands chevaux !»
S'avisant qu'il criait, Perrine prit une profonde inspiration. Puis il se cala sur ses coussins, saisit son gobelet et but une longue gorgée. S'étouffant d'indignation, comme si chaque mot du jeune homme avait été une injure, Séonide eut un rictus mauvais.
« Tu as promis de nous protéger ? »
siffla-t-elle.
« Crois-tu que les sœurs aient besoin de toi ? De quel droit ? Assez !»
coupa Edara. Séonide se tut aussitôt, mais ses mains continuèrent à serrer furieusement le devant de sa robe.
« Qu'est-ce qui te fait croire que nous la tuerions, Perrine Aibara ? »
demanda Janmina, sincèrement curieuse. Les Aiel laissaient rarement voir leurs sentiments. Là, aucune des femmes ne cachait sa perplexité et son mécontentement.
« Je sais ce que les matriarches éprouvent, » répondit Perrine. « J'ai compris en vous voyant avec les sœurs, après l'épi de Doumaï. »
Il jugea inutile d'expliquer qu'il avait senti, juste après la bataille, la haine et le mépris qu'exhalait une matriarche chaque fois qu'elle regardait une Aes Sedai. Cette odeur était absente sous la tente. Mais nul ne pouvait maintenir un tel niveau de rage indéfiniment sans finir par exploser. L'hostilité n'avait pas disparu, elle se cachait. Peut-être tapis jusque dans la moelle des os des Aiel. Delora eut un rire plein de dérision.
« Au début, tu nous demandais de les ménager parce que tu prétendais avoir besoin d'elles. À présent, c'est parce que tu as juré de protéger les Aes Sedai. Qu'en dis-tu la vérité, Perrine Aibara ?»«
Dans les deux cas. »
Sans pâlir sous les yeux glaciaux de Delora, Perrine défia ensuite du regard les cinq autres femmes.
« Les deux choses sont vraies. Je ne mens jamais. »
Les Aiel échangèrent des regards lourds de signification. En d'autres termes, elles eurent un dialogue muet auquel un homme ne pouvait rien comprendre. Au bout d'un moment, après avoir longuement ajusté leur châle et fait cliqueter leurs bijoux, elles parurent être parvenues à un consensus.
« Nous ne tuons pas nos apprentis, Perrine Aibara, »
dit Nevarine. Elle sembla outrée à cette seule idée.
« Quand Rand Altor nous a demandé de prendre des sœurs pour apprentis, il pensait peut-être simplement à un moyen de les forcer à obéir. Et nous ne jouons pas à ces jeux-là. Ces femmes sont de vrais apprentis désormais. Et elles le resteront, jusqu'à ce que cinq matriarches estiment qu'elles sont prêtes à accéder au niveau supérieur. »
précisa Marline.
Bien entendu, nous les traitons exactement comme nos autres apprentis.
Et Dara approuva du chef.
Séonide Traigan,
dit-elle.
Donne-lui ton avis sur ce qu'il devrait faire, au sujet de Massema Dagar.
Pendant les interventions des deux matriarches, Séonide avait failli imploser de fureur, torturant la soie de sa robe au point de risquer de la déchirer. En tout cas, Perrine l'avait craint. Elle obéit pourtant sur le champ à l'ordre des Dara.
Les matriarches parlent d'or, quelle que soit leur motivation. Et je ne m'exprime pas ainsi sous leur influence.
Séonide se redressa de nouveau et parvint à reprendre son masque de sérénité. Mais la colère faisait toujours trembler sa voix.
« J'ai vu les ravages des prétendus fidèles du dragon, bien avant de rencontrer Rand Altor. La mort et la destruction, sans raison. Même un chien fidèle doit être abattu quand il commence à avoir de la bave au coin de la gueule.
« Par le sang et les cendres !»
s'écria Perrine.
« Comment vais-je pouvoir vous laisser approcher du prophète après avoir entendu ça ? Vous avez juré fidélité à Rand, et vous savez que ce n'est pas ce qu'il veut. Et qu'en est-il des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui mourront si je ne parviens pas à traiter avec Massema ?
Si Masuri pensait comme sa collègue, Perrine aurait perdu son temps à tenter de composer avec les Aes Sedai et les matriarches. Et au bout du compte, ce serait Masema qu'il devrait protéger. Quand il posa la question à Séonide, la réponse lui glaça les sangs.
« Comme moi, Masuri sait que Masema a la rage. »
Sa sérénité de retour, la sœur riva sur Perrine un regard insondable. Son odeur trahissait sa détermination. Mais Perrine n'avait pas besoin de son nez pour savoir, car il suffisait pour ça de sonder les yeux noirs de Séonide.
« J'ai juré de servir le dragon réincarné. Et la meilleure façon de le faire, aujourd'hui, c'est de garder loin de lui le fauve nommé Masema. Les rois et les reines savent que ce démon soutient Altor, et c'est déjà assez grave. Inutile qu'il voie le seigneur dragon donner l'accolade à ce fou furieux. Oui, des dizaines et peut-être des centaines de milliers de gens mourront, si tu ne parviens pas à approcher assez près du prophète pour le tuer. »
Perrine en eut le tournis. Encore une pirouette d'Aes Sedai, visant à faire croire qu'elle avait dit blanc, alors qu'il l'avait bien entendu dire noir. Pour ne rien arranger, les matriarches ajoutèrent leur note à la partition.
« Masuri Sokawa, »
dit Nevarin,
« pense que le chien enragé peut être muselé et tenu en laisse, afin de nous être utile. »
Un instant, Séonide laissa paraître sa surprise, le fidèle reflet de celle de Perrine. Mais elle se ressaisit très vite, extérieurement en tout cas. Son odeur indiqua au jeune homme qu'elle se méfiait soudain, craignant d'être tombée dans un piège.
« Masuri voudrait aussi prendre tes mesures pour te confectionner un harnais, Perrine Aibara, »
ajouta Karel d'un ton détaché.
« Selon elle, il faut t'attacher, pour ta propre sécurité. »
Rien sur son visage ni dans son ton n'indiquait si la matriarche souscrivait à cette analyse ou non.
« Séonide, »
dit Aibara,
« tu peux te retirer. Ne reste pas dehors à écouter. Je t'autorise à demander à Garadin de te laisser guérir sa blessure au visage. Mais s'il refuse encore, tu devras l'accepter. » C'est un Gaïshine, pas un de vos larbins des terres mouillées.
Séonide foudroya une dernière fois Perrine du regard. Puis elle se tourna vers les matriarches, les lèvres frémissantes comme si elle allait parler. Au bout du compte, elle se contenta de sortir, avec toute la dignité dont elle pouvait encore faire montre. Extérieurement, ce fut impressionnant, car une Aes Sedai, en la matière, pouvait en remontrer à une reine. Mais son odeur, chargée de colère et de ressentiment, gâchait tout. Dès qu'elle fut partie, les cisaïels se concentrèrent de nouveau sur Perrine.
« À présent, »
dit Aibara,
« peux-tu nous expliquer pourquoi tu conduirais un chien enragé devant le Karakarn ? Quand quelqu'un lui ordonne de le pousser d'une falaise, seul un fou obéit. »
Souffla Nevarin.
« Tu ne nous écouteras pas, »
ajouta Janina.
« Donc c'est nous qui allons t'écouter. Parle, Perrine Aibara. »
Perrine envisagea sérieusement de bondir vers le rabat. Hélas, s'il abandonnait le terrain, il laisserait derrière lui une Aes Sedai susceptible de l'aider, mais d'une manière douteuse, et une autre sœur associée à six matriarches, tout aussi résolue qu'elle à saboter ses plans. Posant son gobelet vide, il croisa les mains sur son giron. Plus question de boire. Pour démontrer à ses femmes qu'il n'était pas une chèvre attachée à son piquet, il allait lui falloir garder les idées claires.